que nous retournions tous à Dieu, tous vers Dieu, que nous puisions notre énergie, notre force, de notre foi en Dieu. Et cela ne peut se faire que lorsque dans tout ce que nous faisons, dans chaque acte que nous posons, dans chaque mot que nous prononçons, que cela se fasse conformément à la volonté de Dieu, conformément à l'ordre de Dieu. C'est la raison pour laquelle il est indispensable d'appliquer l'ordre de Dieu. Dans une communauté musulmane, le premier garant incontournable de la stabilité, n'est-ce pas, et de la pérennité des bienfaits dont Dieu nous entoure, passe nécessairement par l'application de l'ordre de Dieu, c'est-à-dire de la législation islamique. Ça, c'est la conclusion que l'on peut tirer sur ça. Il faut que les musulmans se décident à appliquer le système juridique, politique, économique, social, culturel, administratif et autres de l'islam. Que nous éduquions, que nos enfants soient éduqués, orientés selon les règles de l'islam. Il faut qu'on arrive à faire comprendre à tous les musulmans que c'est lorsque plus on s'approche de Dieu, plus nous assurons notre équilibre, notre harmonie, plus nous bénéficions de la miséricorde de Dieu, plus nous bénéficions de cette stabilité dont nous avons tant besoin. Parce que en tout état de cause, Dieu nous assiste, Dieu est avec nous. La grande différence entre le système de l'islam et le système non islamique positif dans la gestion de la cité, c'est que d'abord en islam, nous avons une motivation. Quand nous faisons du bien, nous savons que nous serons payés. Lorsque c'est un mal qui est commis, nous savons que ce mal, en dehors des sanctions, des lois de la société, il y a surtout la sanction de Dieu qui attend et qui peut intervenir même ici, dans l'ici-bas, avant l'au-delà. C'est que nous savons également que lorsque nous obéissons à Dieu, lorsque nous appliquons les règles édictées par Dieu, dans le système de l'islam, nous savons que nous avons l'appui de Dieu. Parce que nous sommes les croyants, nous sommes les alliés de Dieu. Allahu waliyyu alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur walladhina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum min an-nur ila adh-dhulumat ulaika ashabu an-nar hum fiha khalidun. Les croyants ont pour alliés Dieu qui les fait sortir des ténèbres vers la lumière, tandis que les idolâtres, les mécréants, les polythéistes, eux, ils ont pour alliés le démon qui les fait sortir de la lumière vers les ténèbres. Nous sommes donc les alliés de Dieu lorsque nous nous soumettons à Dieu. Donc il y a tous ces avantages-là. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, il y a un verset du Coran qui le dit, le combat dans le chemin de Dieu. In takunu ta'lamun fa innahum ya'lamun kama ta'lamun wa tarjuna min Allah ma la yarjun. Entre le croyant et le non-croyant, il y a un grand écart. Le croyant, lui, le non-croyant, ce qui compte pour lui, c'est l'ici-bas. Son bonheur qu'il recherche, il le recherche pour l'ici-bas. S'il finit d'exister dans l'ici-bas, il ne s'attend à rien d'autre ailleurs. Tandis que le musulman, le croyant, lui, il sait qu'il a l'ici-bas et qu'il a l'au-delà. S'il perd l'ici-bas et qu'il a l'au-delà, il sait qu'il n'a rien perdu. C'est pourquoi, dans le combat qui a été institué par Dieu, dans le chemin de Dieu, où il faut combattre, où Dieu nous donne justement ce droit d'ingérence, sinon même ce devoir d'ingérence, pour diffuser la parole de Dieu sur la terre de Dieu. Dieu dit aux croyants qui vont combattre, ne craignez rien. Vous êtes devant un ennemi par rapport à qui vous avez une supériorité. Et entre autres, Dieu explique la supériorité de la manière suivante. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Si vous êtes des mortels qui peuvent, si vous pouvez avoir des blessures, c'est-à-dire sentir des blessures, parce que vous avez un organisme comme ils ont des organismes, sachez que si vous pouvez sentir des blessures, eux aussi ils peuvent sentir des blessures. C'est-à-dire si on vous fait une blessure ou bien on vous fait du mal par une arme donnée, si vous pouvez sentir cette peine-là, eux aussi ils peuvent sentir la peine. Si vous êtes mortel, eux aussi ils sont mortels. Mais vous avez quelque chose qu'ils n'ont pas. Tarjouna min Allah ma la yarjoun. Vous espérez de Dieu ce que eux ils n'espèrent pas de Dieu. C'est ça la grande différence. Qu'est-ce que vous espérez de Dieu? Le combattant qui va combattre dans le chemin de Dieu, il a deux grands objectifs. An-nasru aw ash-shahada. La victoire ou le martyr. S'il a la victoire sur la terre, il vit dignement. N'est-ce pas? Et s'il meurt aussi, il meurt dignement. Et il va retrouver un paradis plus vaste que les cieux et la terre. C'est ce qu'il attend. Ça, c'est une différence, entre autres, entre le croyant et le non-croyant. Donc, nous sommes invités par Dieu, en tant que musulmans, d'appliquer l'ordre de Dieu sur la terre. Parce que c'est par l'application de l'ordre de Dieu que nous pouvons avoir cette stabilité. Et pour terminer, nous avons une illustration. En Occident aujourd'hui, par exemple, on a réussi à mettre en place un système politique qui assure une certaine stabilité politique. Mais en fait, la stabilité politique doit être un moyen permettant d'assurer la stabilité sociale. Une stabilité politique qui n'assure pas la stabilité sociale n'en est pas une. C'est-à-dire, cette stabilité politique n'a pas atteint ses objectifs. En Occident, donc, on est arrivé à mettre en place un système politique, le système démocratique que les différents pays se sont donné, n'est-ce pas, le système présidentiel ou semi-présidentiel, etc., soit qu'on est aux États-Unis, en Angleterre, en France, etc. Ça, c'est un système politique qui peut assurer une certaine stabilité sur le plan politique. Mais est-ce que c'est cela la finalité, c'est cela la fin? Non, ce n'est pas la finalité. Ça doit être un instrument permettant en réalité d'assurer la stabilité sociale. Mais il se trouve que lorsqu'on analyse la situation là-bas, on se rend compte que la stabilité sociale n'est pas assurée. Pourquoi chaque jour nous assistons par exemple à la prolifération de sectes en Occident? Une secte qui voit le jour aujourd'hui et qui recommande à ses adeptes par exemple de commettre un suicide collectif. Et ça nous le voyons toujours. Un suicide collectif. Les gens se suicident. Ils viennent quelque part, ils s'enferment dans une maison ou ils vont s'isoler dans une île quelque part dans un océan et tout le monde se suicide. Pour aller soit au paradis ou bien pour être ressuscité par le créateur de secte satanique qui, au lieu de donner la vie à l'être humain, détruit la vie de l'être humain. Est-ce qu'une telle société qui connaît de tels soubresauts, peut-on parler de stabilité au niveau de cette société? Ce n'est pas possible. Sans compter les autres aspects qui sont au quotidien, la criminalité. Dans leurs statistiques, ils sont arrivés jusqu'à dire, à voir combien de personnes sont assassinées, par exemple, par heure ou par jour ou par mois. On est allé jusqu'à dire que toutes les 5 minutes, toutes les 10 minutes, par exemple, on assassine une personne. Les gens ne sont pas en sécurité. Je ne sais pas s'il y a parmi vous des gens, certainement il y en a qui ont vu, par exemple, qui se sont promenés dans un marché de l'Arabie Saoudite, de Jeddah, de Riyad ou de la Mecque. Et en comparaison, qui se sont promenés sur un marché, par exemple, de Paris, de Francfort ou de New York. Notamment le marché de l'or. J'ai eu une information selon laquelle les coopérants français, notamment les enseignants qui sont à l'école internationale française, à Jeddah, le soir, ils aiment se promener au marché de l'or de Jeddah pour regarder l'or que l'on vend dans les marchés. Parce que vous trouvez un marché qui s'étend sur un kilomètre où on ne vend rien que de l'or. Vous voyez que tout est jaune. et les magasins sont ouverts, quand c'est l'heure de la prière, quelqu'un met un petit truc et puis on va à côté, on prie. Après, on reprend, on rouvre de nouveau les magasins. Ils viennent regarder parce qu'en Occident, ce n'est pas possible, vous ne pouvez pas voir ça. On ne peut pas du tout voir un marché où l'or est exposé aux yeux de tout le monde. Il faut mettre des portes à double serrure, avec des caméras qui regardent, avec des gardiens, avec la police, etc., avec des alarmes automatiques, au laser. Et personne ne rentre, ne pénètre d'ailleurs dans le magasin, si ce n'est pas une personne qui veut acheter. Parce que quelqu'un qui veut regarder un badaud, il peut pas, il n'a pas le temps de venir demander qu'on lui ouvre les serrures et que... Parce qu'il est déjà sur l'écran de la caméra, etc. Quand il vient, dès qu'il demande, ou bien dès qu'on voit l'habillement de la personne, il est déjà suspect. On le reçoit, on lui dit « qu'est-ce que vous voulez ?» Et s'il dit « c'est juste pour regarder », on le met à la porte. Donc il ne peut même pas satisfaire une curiosité de voir qu'est-ce que c'est que ça. Alors, c'est donc la même chose. C'est une société où les gens ne sont pas en sécurité, où l'être humain à chaque instant... En plein jour, il y a des attaques à main armée, ce qu'on appelle les hold-up. Une société où des enfants, un enfant vient à l'école, il a une arme qu'il cache quelque part dans son sac, dans une classe, il se met à tirer sur les autres enfants. Il en tue une dizaine ou une vingtaine avant qu'on... Un enfant, un adolescent, il apprend à tuer dès l'adolescence, parce que c'est cela qu'il a vu. Donc, dans de telles sociétés, on n'arrive pas à atteindre l'objectif de la stabilité politique, et on ne pourra jamais l'atteindre. Ils ont réfléchi, les sociologues ont travaillé, les psychologues ont travaillé, les pédagogues ont travaillé, des rapports ont été faits, les économistes sont à pied d'œuvre. Tout le monde travaille. Quel est le problème? Et vous avez vu l'autre jour, on a inventé l'éthique, ce qu'ils ont appelé l'éthique. Il faut introduire l'éthique, disent-ils, dans la gestion de la société, dans la gestion politique, dans la gestion sociale, etc. Mais le grand problème, nous l'avons dit l'autre jour, cette éthique-là, de quelle éthique s'agit-il? Quels sont ses fondements? Ça doit se baser sur quoi? Il est impossible pour eux d'atteindre l'objectif parce qu'il y a un blocage quelque part. Il y a une porte qui est hermétiquement fermée, la porte qui conduit à la solution. Ils l'ont fermée, barricadée. Et personne ne peut faire ou ne veut faire allusion à ça. Il y a des conférences internationales que l'on fait, par exemple, sur le sida, sur la criminalité, sur le terrorisme, où des spécialistes de tout genre se retrouvent. On réfléchit comment faire pour mettre fin à la criminalité, pour mettre fin à la drogue, à la toxicomanie, au terrorisme. On réfléchit, on fait des rapports volumineux. Alors, il faut appliquer. On applique, ça ne marche pas, les choses ne font que s'aggraver. Il y a donc une cécité terrible qui est quelque part où les gens sont incapables de voir qu'à côté d'eux, il suffit de tendre la main pour avoir la solution. La solution, c'est d'abord savoir à qui on a affaire. En voulant gérer l'homme, il faut savoir cet homme-là qu'on veut gérer, qui est-il? Quelle est sa nature? Quelle est son origine? Qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Quelle est sa mission? Quels sont ses contours? Qu'est-ce qu'il est? Qui représente-t-il? Ils ont faussé déjà en disant qu'il est venu du singe. Un être humain et un singe, ce n'est pas la même nature, ce n'est pas la même essence, ce n'est pas la même origine. Mais il s'acharne. Il y a le démon qui les fait tourner autour, parce que le démon a pris l'engagement, ne l'oublions pas, de fermer justement ses portes, d'aveugler l'être humain, pour l'empêcher de voir la vérité, de voir Dieu, pour aller au paradis. Parce que lui, il veut que l'homme l'accompagne en enfer. Il a pris cet engagement et il a trouvé aujourd'hui beaucoup d'adeptes. Parce que les gens sont complètement aveuglés. La solution qui est à côté, c'est d'abord découvrir l'homme. Comprendre que l'homme, comme ils le disent d'ailleurs, ne vit pas que de pain. Ce n'est pas un être matériel seulement, ce n'est pas un être physique seulement. Il a autre chose au-delà du physique et du matériel. L'autre moitié qu'il a, ce qu'il a au-delà du physique et du matériel, il faut le connaître, il faut le découvrir. Et l'intelligence humaine, la raison de l'homme, la simple raison, la seule raison de l'homme, ne lui permet pas d'avoir les contours de cette moitié qui échappe à l'analyse de l'être humain. Parce qu'il ne peut pas l'atteindre. La moitié spirituelle de l'être humain, il y a un autre moyen de l'appréhender, de le découvrir et de le comprendre. Cet autre moyen, Dieu nous l'a donné, c'est à portée de notre main. C'est la révélation. Comme on l'a toujours dit, la révélation, l'information fiable que Dieu fait descendre sur un élu, un prophète, pour nous dire, voilà la nature de l'homme, voilà la fonction, voilà le rôle, voilà la mission de l'être humain. Alors ces gens-là se sont interdits du fait du démon. Parce que tout cela est parti, c'est un enchevêtrement, un enchaînement de pièges du démon qui ont abouti à ce résultat. Parce que si on remonte l'origine de la situation actuelle, de cécité dans laquelle se trouvent ces gens-là, les sociologues, les ethnologues, les psychologues, les pédagogues, etc., occidentaux aujourd'hui qui réfléchissent sur la nature de l'homme, sur les problèmes de l'homme, qui cherchent des solutions à ces problèmes-là, mais qui sont aveugles, qui ne peuvent pas. Si on remonte la Genèse, on verra que ça a commencé par le divorce entre l'État et la religion, qui a été consacré par la Révolution française de 1789. Mais au-delà de ça, le problème remonte à loin dans l'histoire. C'est d'abord l'altération du message, notamment du livre sacré, du livre saint, l'altération de la Bible. Le fait que le démon ait pu tromper les gens jusqu'à ce qu'ils ont altéré le message, qu'ils ont mélangé à cela la part de l'homme. Ça, c'est le premier. Le complot est parti d'abord de là. Et c'est ce qu'il cherche, il a voulu. Le démon cherche à le faire pour les musulmans. Bien que Dieu a pris l'engagement de préserver le Coran, de préserver la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous avons toujours des gens, par exemple des gens qui se disent, nous ne croyons qu'au Coran. Le prophète l'a prévu. Nous ne croyons qu'au Coran. Or, le prophète a dit, alayhi salatu wa sallam, un jour viendra où vous trouvez quelqu'un qui est accoudé sur son oreiller, qui se dit, moi, je ne crois qu'au Coran. Les hadiths, ça ne me regarde pas. Le Coran qui est venu de Dieu, moi, je ne suis que ça. Comment peut-on suivre le Coran? Comment peut-on comprendre le Coran si on ne prend pas l'explication que du contenu du Coran à partir de la personne sur laquelle le Coran a été révélé. Lui qui connaît mieux le Coran, il connaît chaque verset, le sens de chaque verset. Il te dit tel verset, sa signification c'est ceci et cela. Toi tu dis non, je ne prends pas de toi ton explication. Mais c'est chez lui, sur lui que c'est descendu. L'explication c'est ça la sunna. N'est-ce pas? Alors donc on me dit que le temps est, on a pris trop de temps. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en conclusion, la stabilité sociale que nous recherchons, qui est donc l'objectif, ou la stabilité de l'homme tout court, la stabilité de l'individu, et la stabilité de la communauté, ne peut venir que de la troisième dimension, parce que l'islam est un système tridimensionnel. L'homme, la communauté et Dieu. Pour assurer la stabilité, l'harmonie, l'équilibre de l'individu, et partant de la communauté, puisque la communauté est constituée d'individus, il faut nécessairement se tourner vers Dieu dans le cadre de la transcendance. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. La première question nous dit, est-ce qu'il est normal, dans la recherche d'une certaine stabilité, on dit chaque fois au Niger qu'il faut une personnalité de telle ethnie à tel poste de responsabilité pour équilibrer. Le problème du dosage dans la formation des gouvernements qui tient compte de, n'est-ce pas, de, je crois que c'est de cela qu'il s'agit, de l'appartenance à telle ethnie ou telle autre ethnie. Évidemment, c'est dû au fait qu'on n'est pas à cheval sur les critères de l'islam. C'est pourquoi on est encore au stade du critère de l'ethnie pour désigner un responsable. En réalité, dans un système qui fonctionne conformément aux règles de l'islam, on ne tient pas compte de cela parce que tout à l'heure, nous l'avons vu. Le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, d'abord le Coran nous le dit. Ya ayyuhannas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila li ta'arafu, inna akramakum indallahi atqakum. Où Dieu nous dit qu'il nous a créés à partir d'un couple, d'un homme et d'une femme, et qu'il nous a désigné en race et en tribu pour que nous nous entreconnaissions. Et Dieu dit, le meilleur d'entre vous, c'est-à-dire les êtres humains, est le plus pieux d'entre vous. Le critère de supériorité, le critère de choix, c'est le critère de la piété. Dans le choix des responsables du pays, on doit tenir compte non pas de l'appartenance tribale, mais plutôt de la compétence, de la droiture, de l'intégrité, du sens de la responsabilité et de la transparence. Bref, de l'engagement de l'être humain par rapport à Dieu dans le cadre de sa foi. Si nous respectons ces normes, les résultats escomptés seront atteints, inshallah. Mais s'il faut tenir compte de la tribu, eh bien là, en tout cas, ça n'a pas été le propre du prophète, alayhi salatu wassalam. Il faut donc tenir compte du critère de la piété. Il paraît que le califat de Omar ibn Abdelaziz a été un exemple de stabilité politique et sociale. Parlez-nous-en un peu de lui. Effectivement, l'histoire rapporte que sous le califat de Omar ibn Abdelaziz, qui est-il d'abord? Il est important très brièvement de savoir qui est cet homme et comment il est intervenu, il est même venu au monde. Il est venu dans des conditions tout à fait particulières. Dans l'exposé de l'autre jour et tout à l'heure, dans l'exposé qui a précédé, j'avais parlé du fait que Omar ibn al-Khattab, qui était le deuxième calife du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a été un exemple de piété, de gestion transparente et responsable dans l'histoire de l'islam, cela n'est pas étonnant puisqu'il fait partie des quatre califes orthodoxes bien guidés que le prophète, à propos de qui le prophète a prophétisé. En effet, le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, « Alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafai al-rashidin al-mahdiyina min ba'di. » Je vous demande de vous agripper à ma sunna, à ma tradition et à la tradition des califes bien guidés, les califes orthodoxes qui viendront après moi. Ces califes bien guidés, il y a eu d'abord les quatre califes. Il n'y a pas de contradiction ou de divergence entre les oulémas de l'islam que ces quatre-là, Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali, font partie des califes dont le prophète a parlé, alayhi salatu salam, dont il faut s'agripper à leur sunna. Mais les oulémas, certains oulémas ont dit qu'il y a eu un cinquième calife orthodoxe, qui est justement ce Omar ibn Abdelaziz, qui concerne cette question. Le problème, c'est que ce Omar ibn Abdelaziz, dans la chronologie, il ne vient pas après Ali. Il est considéré comme le cinquième calife orthodoxe bien guidé de l'islam, mais dans la chronologie, il ne vient pas après le quatrième calife qui est Ali. Il y a à peu près un peu moins d'un siècle qui les sépare. Et lui, il a été un calife omeyyade de la dynastie des Omeyyades. Vous savez que ce sont les Omeyyades qui ont pris immédiatement après le califat, pratiquement de Ali ibn Abi Talib. Alors, ce calife omeyyade, il est devenu un calife orthodoxe, bien guidé, dont les actions rappellent dans une très grande mesure, dans une très large mesure, les actions des quatre premiers califes de l'islam. Alors, je disais donc que le deuxième calife, qui est Omar ibn al-Khattab, qui avait fait preuve de grande piété, parce qu'il a été célèbre pour sa piété, au point que, en tant que calife, la nuit, il ne dormait pas. Il se promenait dans la ville pour voir s'il ne pourrait pas trouver, par exemple, des gens qui ont des problèmes pour venir à leur aide. Il sortait dans la ville, mais il se masquait pour que les gens ne se gênent pas en le voyant. Il se masquait presque. Alors, un jour donc, dans les rondes qu'il faisait, pendant la nuit, il était arrivé près de la maison de cette fameuse femme dont nous avons déjà parlé, qui a dit à sa fille de prendre le lait, de le mélanger de l'eau d'eau et d'aller le vendre au marché. La fille avait dit à sa mère, je ne peux pas le faire parce que le calife a fait dire que Dieu ne l'aime pas, que cela est interdit par Dieu, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas mélanger de l'eau au lait pour le vendre. La mère lui a dit, si Omar l'a dit, il n'est pas là, fais-nous notre travail, mets rapidement de l'eau dans le lait pour qu'on aille le vendre. avant qu'il ne soit trop tard. La fille a refusé, elle a dit à sa maman, si lui ne nous voit pas, son Dieu nous voit, nous observe. Une petite fille. Alors Omar, qui a entendu la conversation entre la fille et sa mère, a demandé à son collaborateur qui le suivait de mettre un signe sur la maison pour que la maison ne se perde pas et que demain il puisse donc convoquer et effectivement c'est ce qui s'est passé. Il a convoqué la fille et sa mère chez lui, la conversation a été confirmée et il a demandé à un de ses garçons de se marier, de prendre cette fille comme épouse, parce qu'il a dit que très certainement dans la progéniture de cette fille il y aura un miracle qui a fait preuve de cette marque de piété. Il a dit que s'il n'était pas âgé, il allait la marier, il allait la prendre comme épouse lui-même, mais comme il était un peu âgé, il a demandé à un de ses fils de le faire. Effectivement, un de ses fils l'a marié et cette femme donc a mis au monde, je crois, une fille qu'on appelait Umm Asim, qui a été mariée, donc élevée dans la famille de Omar ibn al-Khattab, le deuxième calife, puisque c'est son fils qui l'a mariée. Donc la fille, désormais, est membre de la famille du deuxième calife, de Omar ibn al-Khattab, dont nous avons vu, n'est-ce pas, la piété qu'il a cultivée pendant tout son règne et tous les changements institutionnels qu'il a apportés dans l'histoire de l'islam. C'est le premier qui a créé le trésor public. C'est lui qui a institué un certain nombre de choses, qui a commencé à goudronner les rues des villes, des différentes villes de l'État islamique. C'est lui qui disait qu'il craint que Dieu l'interroge le jour des comptes si un mulet, c'est-à-dire ces animaux de traite qui tirent les chariots, les voitures, si un mulet, là-bas à Bassora, trébuchait. Il craint que Dieu l'interroge le jour des comptes. Donc c'est lui qui a commencé par goudronner les rues des villes des villes de l'islam. Donc sur le plan institutionnel, il a apporté beaucoup d'innovations. Alors l'enfant, cette fille donc, la fille de, si vous voulez, sa petite fille, la petite fille du calife, donc a été élevée dans ce foyer, dans le foyer où il y avait des grands compagnons du prophète, comme le fils de Omar ibn Khattab lui-même, qui est Abdullah ibn Omar. Et cette fille, ensuite, qui a été élevée dans la famille de Omar ibn al-Khattab, quand elle a grandi, on était déjà au temps de la dynastie des Omeyyades. Le calife Omeyyade de l'époque s'appelait Abdul Malik ibn Marwan. Leur capitale était à Damas. Et il avait un frère qui était donc un prince Omeyyade. Il s'appelait Abdulaziz ibn Marwan. Il était le gouverneur d'Égypte à cette époque-là. Il a décidé de chercher une épouse pieuse d'une certaine qualité. Et on l'a fait des indications. On lui a fait des indications. C'est ainsi qu'il est venu demander la main de cette fille, de Umm Asim, qui est donc la fille de cette fameuse fille qui a eu l'entretien avec sa mère. Il était prince Omeyyade. C'était à un moment où, sur le plan politique, le monde musulman vivait des épreuves parce que les princes, ils ont usurpé le pouvoir, en fait, puisqu'ils ont violé les critères de choix du dirigeant de l'État islamique, qui était choisi selon les critères de la piété, de l'intégrité, etc. Comme les quatre premiers califes. Les Omeyyades ont pris le pouvoir, donc ils se sont transmis le pouvoir par succession, en violant donc, comme je le disais, les règles de choix du dirigeant islam musulman, tel que cela a été établi par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, il s'adonnait à des excès, etc. Il usurpait les biens des autres, il faisait ce qu'il voulait. Mais ce prince, qui était le gouverneur de l'Égypte, pour se marier à cette fille, a décidé de fouiller dans ses biens, pour trouver dans ses biens quelque chose qui est propre et licite. C'est ce qu'il a utilisé comme dot pour marier cette fille. Alors, c'est ainsi donc qu'il s'est marié à Umm Asim, qui a donné naissance à un enfant qu'ils ont appelé Omar. Cet enfant a grandi dans la cour toujours dans la famille du premier calife, de Omar Ier. Notamment, il a été élevé par son grand-père ou son grand-oncle maternel, qui est Abdullah ibn Omar. Il a étudié le Coran à bas âge. Il était un prince. Il avait tout ce qu'il fallait. Il était dans toutes les conditions. Mais on lui a donné une éducation exemplaire. Il a mémorisé le Coran à bas âge. Il a mémorisé les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On lui a donné les meilleurs précepteurs pour l'encadrer. Au point qu'à un certain âge, il était devenu un des grands ulémas de l'islam. Et cela est bien connu. C'est d'ailleurs, on raconte même qu'en tant que prince, une fois, parce que son père a donné des instructions fermes pour que son éducation soit exemplaire. Il paraîtrait qu'un jour, en tant que prince, il était venu en retard chez son maître, qui a demandé la cause. Il avait gardé, il avait fait pousser ses cheveux, donc il était occupé à peigner et entretenir ses cheveux. Et il a accusé un petit retard pour venir à son cours. Son maître a informé son père, qui a donné ordre de le raser, de lui raser la tête. Donc il a été éduqué dans la rigueur, au point qu'il était devenu l'un des plus grands ulémas parmi les tabi'in. Vous connaissez les tabi'in? Les tabi'in, ce sont les compagnons, des compagnons du prophète sallallahu alayhi.